Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série « Quelques conseils que la Bible nous donne pour notre vie ». Chers amis, premièrement, se nourrir 4 fois par semaine. Point d'interrogation. La Bible dit, pour lutter contre la pensée qui nous retient de travailler de nos propres mains, il y en a qui n'aiment pas, surtout de nos jours, et nous persuader d'attendre pour obtenir des autres ce dont nous avons besoin. La Bible nous dit, mais nous vous exhortons, frères, à aller de progrès en progrès. Ayez à cœur de vous tenir tranquille, de vaquer chacun à vos affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons prescrit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10. Il y avait, il est vrai, parmi les premiers chrétiens, des ascètes hors normes qui pensaient n'avoir qu'à prier et que Dieu saurait les nourrir. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul qui encourage les premiers chrétiens à travailler. On rencontrait à cette époque aussi des dévots enthousiastes qui oubliaient le travail. Il m'arrive également d'en rencontrer aujourd'hui pour qui seule la piété importe. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont narcissiques dans leur piété. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils sont persuadés que se plonger dans le travail les séparerait de Dieu et leur ferait courir le risque de gagner trop d'argent. C'est évidemment une excuse. Alors effectivement, ils ne travaillent pas, mais ils ont quand même besoin d'argent, et cet argent, ils attendent de le recevoir de ceux qui en ont trop. C'est toujours assez facile de s'en laver les mains, mais ces gens-là ne remarquent même pas qu'ils exigent alors de l'argent de ceux qui se salissent les mains en travaillant. Deuxièmement, voici un exemple très délicat. Il m'est tout simplement impossible de résister à cet homme, même s'il est malheureusement marié. Chers amis, contre des pensées impures qui nous hantent et contre les nombreuses images méprisables qui nous apparaissent et envoûtent notre esprit en excitant la concupiscence, la Bible nous dit « Écartez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu ma supplication. Dieu accueille ma prière. » Psaume chapitre 6, verset 9. Voyez-vous, les pensées lascives sont souvent ressenties comme impérieuses et l'être humain y est souvent livré sans défense. Or, la parole de l'Écriture sainte que nous devons opposer à ces tentations d'analyse n'analyse pas leurs motifs ainsi, mais les surmonte grâce à la foi Oui, grâce à la foi en la présence de Dieu, qui, lui, croyez-moi, je l'ai expérimenté aussi, Dieu est à nos côtés. Et c'est cette présence qui donne aux chrétiens la force de ne pas s'abandonner à leurs pulsions, mais bien au contraire, à briser leur domination. Il ne s'agit pas de les étouffer tout simplement, mais il s'agit de les combattre en faisant sienne leur force positive. Il s'agit d'une lutte qui va révéler la motivation la plus forte. En s'accrochant fermement à la présence de Dieu, le chrétien opte pour celui-ci comme véritable fondement de ses actes et se conduit alors plus en accord avec la réalité que s'il se laissait dominer par ses passions. Troisièmement, ce n'est même pas la peine que je lutte. Je n'arriverai de toute façon pas à résister. Quelle belle excuse! Or, contre la pensée qui me prédit que je vais perdre le contrôle de moi-même, et me couvrir de honte aux yeux des hommes. Le vieux livre dit, The Old Book, vous savez quel est ce livre, il dit qu'ils aient honte et qu'ils reculent tous ceux qui haïssent Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits, sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur de gerbe son giron. Psaume 129, verset 5. Donc, une femme s'est éprise d'un autre homme que son mari. Elle ressent un amour si intense, si puissant, qu'elle pense ne pas pouvoir y résister, que ce serait aller contre sa nature. En fin de compte, n'est-ce pas Dieu qui lui a offert cet amour? Avec les versets du psaume, cette femme, elle, n'est pas livrée totalement impuissante à son sentiment amoureux et à l'attirance physique de cet homme, pas du tout. Elle peut lutter contre tout cela et faire face à ses fantasmes sexuels. Elle peut reconnaître qu'ils sont intenses, d'accord, mais elle peut aussi les rejeter violemment. Elle peut vouloir demeurer en Sion sous la bénédiction de Dieu, là où elle se sent chez elle dans son mariage, et repousser toutes ces forces qui veulent l'attirer et l'en détourner. Alors, elles ne l'envahiront plus et se dessécheront, un peu comme l'herbe. Du reste, c'est pareil pour l'homme qui tombe amoureux d'une autre femme que la sienne. Quatrièmement, il n'y a rien de mal à cela. Nous ne sommes que amis. Et elle a des problèmes avec son mari, la pauvre. Alors, contre l'idée selon laquelle nous sommes bien obligés de rester en contact avec une femme mariée, parce qu'elle nous rend souvent visite ou recherche un soutien spirituel, soi-disant, la Bible dit, pourquoi donc t'éprends-tu, mon fils, de la femme d'autrui? Proverbe chapitre 5, verset 20. Lorsqu'un homme marié s'éprend d'une femme elle-même mariée, il est souvent animé par les mêmes motivations que celles de ce chrétien qui pense qu'il peut aider une femme mariée dans son cheminement spirituel. Il se retranche derrière le fait qu'elle est malheureuse, malheureuse dans son mariage, et qu'il ne fait que la consoler en lui donnant le sentiment qu'elle est attirante et qu'elle mérite d'être aimée. Qu'y a-t-il de mal à cela, je vous le demande. Hypocrites que nous sommes. Alors je propose à cet homme ces versets du livre des Proverbes qui conseillent de ne pas trop s'intéresser à une femme étrangère, car il ne doit pas se voiler la face. Sa serviabilité cache son propre besoin inconscient de proximité et de tendresse. Cinquièmement, il y a tant de pécheurs et de scènes de pardon dans la Sainte Bible que je suis en bonne compagnie. Je n'ai donc pas besoin d'avoir mauvaise conscience. Eh bien, contre les démons de la luxure qui utilisent les paroles bibliques pour leur compte, la Bible dit « Mais toi, Yahvé des armées qui sondent le juste, qui voient les reins et le cœur, puissais-je voir ta vengeance sur eux, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. » Jérémie chapitre 20, verset 12. Nous, les hommes et les femmes, trouvons suffisamment de citations dans la Sainte Bible pour justifier nos comportements en matière de sexualité. Nous ne faisons après tout que mettre en pratique l'amour du prochain en donnant quelque chose de très précieux à celui ou à celle que nous aimons. C'est merveilleux, mais peut-être pas du tout. Et au regard de la miséricorde de Dieu, nous ne devons pas être trop sévères à l'égard de nous-mêmes à ces tentatives de nous exonérer. Je oppose, chers amis, les paroles du prophète Jérémie. En effet, Dieu sonde nos reins et nos cœurs. Il voit absolument tout. Au lieu de nous exempter, nous devons nous présenter à lui tels que nous sommes, misérables et pleins de toutes sortes de tentations. Nous devons demander de nous être libérés et nous laisser sonder par lui, par Dieu. Ce n'est pas à nous de nous justifier, mais à Dieu de nous rendre justes et de nous orienter vers ce qui correspond à notre être profond et à celui de l'autre. Sixièmement, il n'y a qu'à moi que cela arrive. Eh bien, contre la pensée de celui qui a succombé par détresse et tristesse, et qui croit être le seul à subir de telles épreuves, la Bible nous dit « Soyez sobres et veillez ». Nous devons veiller. Nous ne devons pas somnoler tout du long. Oh non, nous devons nous secouer, car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, circule, cherchant qui engloutir. Résistez-lui, solide dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont infligées à votre fraternité qui est dans le monde. » Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Nous avons toujours besoin de justifier nos défaillances morales. Nous nous persuadons, par exemple, que nous sommes seuls, nous sommes les seuls à avoir des tentations aussi démesurément fortes que cela vient de ce que nous avons une libido exacerbée et que nous n'y pouvons absolument rien. Cela fait partie de l'histoire de notre vie. Enfant, nous n'avons jamais trouvé l'apaisement dont nous aurions eu besoin. Je ne m'arrêterai pas à de telles considérations, non, dans lesquelles le diable, on le sait, il rôde pour nous accaparer. Et là aussi, j'en sais quelque chose. Je vous exhorte sérieusement à la sobriété et à la vigilance. Septièmement, n'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui a besoin de beaucoup. La cupidité. Qu'il ne fasse pas tant de manières. Il peut aussi faire quelque chose pour moi, il me semble. Il peut faire quelque chose pour moi de temps en temps. Eh bien, contre l'attitude de celui qui exige de son prochain un travail manuel qui dépasse ses forces, la Bible dit « Nul d'entre vous ne dominera sur son frère avec rigueur. » Lévitique, chapitre 25, verset 46. Dans certaines entreprises, surtout de nos jours, on exige souvent trop des employés. Ils doivent améliorer chaque année leur rendement et les indices sont constamment revus à la hausse, au prétexte évidemment que c'est le seul moyen de tenir la concurrence. Il n'est donc pas rare que les collaborateurs soient exploités au seul profit de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Contre de telles tendances, je propose une mise en garde extraite du Lévitique. Nous ne devons pas surmener notre prochain. Répétons-nous ces paroles lorsque nous sommes avides d'un gain toujours et encore toujours plus important, car elles peuvent nous aider à ne pas vivre au détriment des autres. Huitièmement, je ne suis pas une banque. Qu'est-ce que tu crois? Eh bien, contre l'attitude de celui qui n'accepte pas de donner au frère qui est dans le besoin ou de lui prêter ce qu'il demande, la Bible dit « Tu ne fermeras pas ta main devant ton frère indigent, tu devras au contraire lui ouvrir ta main et lui prêter ce qui lui manque. » Deutéronome chapitre 15, verset 7. Évidemment, pour autant qu'il y a les preuves de cela, car il y a aussi les margoulins. Alors, voyez-vous, c'est un ordre que nous donne ici la Sainte Bible en exigeant de nous exactement le contraire de ce que le démon nous incite à faire. Les pensées que celui-ci nous inspire semblent raisonnables. En effet, les raisons qui nous poussent à refuser de venir en aide à notre prochain ne manquent pas. Ils pourraient nous duper, ou bien nous pourrions nous-mêmes sombrer dans le besoin. La sainte parole de la Bible nous enjoint au contraire à donner à notre frère ce qu'il demande, et ce commandement de Dieu a plus de poids que les insinuations du démon. Dès lors que nous nous imprégnerons de cette parole de Dieu, nous agirons dans son sens, dans le bon sens. Neuvièmement, lorsqu'il n'y a pas d'héritage, eh bien, contre les pensées qui nous font reprocher à nos parents de nous avoir abandonnés en ne nous léguant aucune pièce d'or pour nous aider dans notre dénuement, la Bible dit que père et mère m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Psaume chapitre 27, verset 10. Il y a des gens qui affirment avoir grandi dans la pauvreté, qui reprochent à leurs parents de ne jamais leur avoir acheté, quand ils étaient enfants, ces vêtements de marque qu'ils enviaient sur leurs camarades, ou encore le iPhone que tous les autres possèdent déjà. L'âge venu, ils ont le sentiment que ce qu'ils ont, ils ne le doivent qu'à eux-mêmes et qu'ils n'avaient rien à attendre de leurs parents. Se comparant à d'autres, ils pensent qu'ils sont donc lésés. Oui, mes parents m'ont abandonné, mais le Seigneur, lui, il m'a recueilli. La pauvreté des parents n'est ni un prétexte à leur faire des reproches, ni une raison pour leur trouver des excuses, mais elle est transformée en la confiance que nous devons avoir, que Dieu nous accueille. La pauvreté nous renvoie donc à Dieu et devient dès lors un défi spirituel. Et dixièmement, une fois de plus, je vois qu'il y a une voiture neuve devant la porte de mon voisin. Voyez-vous, contre les pensées qui nous tourmentent, lorsque nous voyons que les richesses de nos frères leur valent la considération des autres, la Bible nous dit « En Yahvé, mon âme se loue, que l'entendent les humbles et qu'ils se réjouissent. » Psaume 34, verset 3. Que nous le voulions ou non, nous n'arrêtons pas de nous comparer aux autres. Nous envions, bien entendu, le voisin parce que nous avons l'impression que sa Mercedes 4x4 lui vaut plus de considération de la part des gens qu'à nous, qui n'en possédons qu'une petite, qu'ils le respectent, tandis que nous, eh bien, ils nous regardent de haut. C'est souvent vrai, bien sûr, que les riches sont mieux considérés dans le monde que les plus modestes. Mais, ce qui importe, ce n'est pas l'estime des hommes, mais c'est dans le Seigneur, oui, c'est dans le Seigneur que mon âme va être louée, et cette estime que Dieu m'accorde elle m'est plus importante que celle des gens. C'est peut-être une solution à bas prix, même si je m'emprègne de cette phrase-là, elle ne va pas me convaincre immédiatement, parce que j'ai quand même en moi le désir d'être reconnu par les autres. Mais l'intégrer constamment à mes réflexions peut progressivement transformer ma pensée. Chers amis, cette courte étude, nous allons la terminer par la prière, et je voudrais auparavant vous dire les strophes d'un très ancien cantique. Ensuite, nous allons prier, et j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé. En ce temps-là, il n'y avait pas de CD. C'est 1958. Oh là là, oui, 1958. Voici donc les strophes de ce vieux cantique. Encore cette journée que tu nous as donnée, Seigneur, vient de s'enfuir, et ce don de ta grâce, comme une ombre, s'efface pour ne plus revenir. Fais que mon cœur de pierre, détaché de la terre, soupire après les cieux, ô Christ, qu'en ta présence, je marche en assurance par toi, victorieux. Prions. Seigneur notre Dieu, combien souvent nous nous laissons aller à pécher par notre langue, que nous sommes facilement entraînés à porter des jugements faux ou exagérés, à médire de notre prochain, à le juger sévèrement, à voir la paille qui est dans son œil, tandis que nous ne voyons pas la poutre qui est dans la nôtre. Ô Dieu, garde notre bouche, garde notre langue du mal et nos lèvres de parler avec tromperie. Rappelle-nous qu'un jour viendra où nous aurons à rendre compte de toutes les paroles vaines que nous aurons dites. Combien plus des paroles mauvaises et contraires à la charité. Aussi, Seigneur, nous te prions de sanctifier ce don de la parole que tu nous as fait. Que nous soyons prompts à écouter, que nous soyons lents à parler et lents à nous mettre en colère. Seigneur Jésus, toi, tu parlais comme jamais homme n'a parlé, que ta parole habite abondamment en nous avec toutes sortes de sagesse, que nos discours soient assaisonnés de sel avec grâce, afin que tout ce que nous faisons, soit par nos paroles, soit par nos actions, nous le fassions en ton saint nom, en rendant grâce par toi à Dieu notre Père. Sois toujours avec nous pour garder nos cœurs dans ta communion, pour nous préserver du péché. Et si nous tombons dans le péché, eh bien, pour nous pardonner et de nous relever, que ta grâce et ta paix soient avec nous et avec tout ton peuple, pour l'amour de ton saint nom. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant je vais essayer de vous mettre ces chants d'un assez lointain, oui, assez lointain, 1958.
Que jamais je ne me lasse, nom béni, de te chanter. Il ne le craint plus, mon frère, t'écoute, et sur la route chante. Et sur la route chante ce beau nom Jésus. Il pleura sur ceux qui pleurent, c'est lui l'homme méprisé qui mourut pour ceux qui meurent.
Amen.